15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré aux nouvelles tendances de la médecine et la chirurgie esthétique. Demain, à Paris, s'ouvre le plus grand congrès de la profession, le congrès de l'IMCAS, qui accueille plus de 12 000 spécialistes venus de 112 pays. Et bien avec notre invité, le docteur Hugues Cartier, dermatologue et coordinateur scientifique de ce congrès, nous ferons le point sur les nouveautés 2020. Notamment, on parlera des nouveaux produits de comblement des rides qui vont débarquer sur le marché, encore plus performants, et vous verrez aussi, peut-être bientôt, des robots autonomes feront ces injections tout seuls. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'une étude qui pourrait peut-être expliquer enfin pourquoi on peut avoir des cheveux blancs qui poussent quand on est stressé. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, on va faire une petite pirouette puisqu'on va parler des maladies rares, parce que même si on les appelle rares, en réalité, de nombreux patients vivent quotidiennement avec. Heureusement, des chercheurs s'activent partout à travers le monde pour trouver des solutions pour ces malades qui n'intéressent pas toujours les laboratoires pharmaceutiques conventionnels. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de sexe anal. Elle répondra à la question d'un homme hétérosexuel qui s'interroge mais surtout qui craint que sa compagne pense qu'il est homosexuel.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première, c'est celle de Eric, 35 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Je vous appelle parce que notre fils a été diagnostiqué avec une ectopie testiculaire. Donc c'est une bourse en fait qui est vide. Le pédiatre nous a conseillé d'attendre pour le moment. Je voulais simplement savoir, premièrement, si c'était une chose qui était fréquente chez le nouveau-né, et deuxièmement, si une opération serait à prévoir si le testicule ne descend pas. Merci beaucoup.
Alors Jimmy, on va essayer de répondre à la question d'Eric. Donc lui, il parle d'une ectopie testiculaire chez un bébé. C'est quoi d'abord ?
Alors, il faut distinguer deux choses. L'ectopie testiculaire de la cryptorchidie. La cryptorchidie, c'est une anomalie qui consiste à avoir un testicule qui ne descend pas dans la bourse, mais qui est sur un trajet normal, puisque dans l'embryogenèse, quand dans le fœtus, le testicule est haut situé et il migre tranquillement pour atteindre le scrotum. En revanche, dans l'ectopie testiculaire, le testicule n'est pas du tout dans la bourse, mais il est dans une zone où il ne doit absolument pas être.
Dans le ventre, par exemple.
Intra-abdominal, près des fesses, dans une zone inguinale. Et donc, il faut distinguer les deux choses.
Il n'est pas sur le bon trajet.
Il n'est pas sur le bon trajet.
D'accord.
La cryptorchidie, c'est assez fréquent. C'est 3% des nouveau-nés. Cette incidence, elle est multipliée par 10 chez les prématurés. C'est 30% des bébés prématurés. Alors que
l'ectopie testiculaire... Oui, parce que les bébés qui sortent plus tôt, peut-être ça n'a pas eu le temps de descendre comme il fallait. D'accord.
Et l'ectopie testiculaire, en revanche, c'est moins fréquent. C'est moins de 1 naissance sur 100.
Alors, est-ce qu'on a identifié les causes de ces anomalies ? Alors, l'ectopie ou l'autre ?
C'est pas très clair. On a quelques pistes. Parfois, c'est un obstacle mécanique qui fait que le testicule ne descend pas.
Un obstacle mécanique, ça peut être quelque chose qui gêne le passage du testicule.
Souvent, il y a une part génétique, puisque quand il y a un antécédent d'ectopie ou de cryptorchidie dans la fratrie, on sait que il peut y en avoir d'autres chez les enfants, donc il y a une part génétique héréditaire.
Le papa a eu ça aussi, ça
exactement.
Peut...
Ouais. Et puis, il y a des parts hormonales, un problème avec un axe qui ne marcherait pas très bien, qui fait qu'on pourrait avoir aussi d'autres malformations du zizi, nous ferait dire qu'il y a un problème de testostérone, par exemple. Et puis, il y a la cause environnementale avec les perturbateurs endocriniens. On s'est rendu compte que le nombre de cryptorchidies augmentait. Alors, est-ce qu'on les dépiste mieux ou est-ce que dans l'environnement, il y a des choses qui entraînent ça ? On n'est pas trop sûr. Et comme on l'a dit, la prématurité, comme on est un peu plus tôt, le testicule n'est pas descendu.
D'accord. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans la grande majorité des cas, si je ne me trompe pas, ça rentre dans l'ordre tout seul.
Oui, pour la cryptorchidie, dans les deux tiers des cas, 60%, avant un an, le testicule descend tout seul. S'il ne descend pas...
On fait rien, on surveille.
Alors on surveille, exactement. Dans l'ectopie, si vraiment le testicule n'est pas du tout au bon endroit, là par contre, il n'y a aucune raison qu'il se remette en place et il faudra intervenir chirurgicalement.
D'accord. Et j'imagine que si on ne fait rien, par contre, il peut y avoir de graves conséquences peut-être.
Oui, il faut faire descendre le testicule. Classiquement, on le fait descendre avant l'âge de 2 ans. À partir de 1 an, on peut commencer à opérer. Mm-hmm. Puisque si on n'intervient pas, il y a un risque sur la spermatogénèse. Mais une fois qu'on a opéré et que c'est pris en charge tôt, en règle générale, ils ont une fertilité comme les autres.
Et sinon, effectivement, il peut y avoir un problème. Et avec un testicule, on peut s'en sortir aussi.
Bien sûr,
j'imagine.
Avec un testicule, on peut avoir une vie sexuelle normale et un appareil reproducteur fonctionnel. Mais mieux vaut en avoir deux, forcément, pour que ça marche un peu mieux.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Fabrice, 38 ans. On l'écoute.
Bonjour, Mélanie. Bonjour, docteur Mohamed. Voilà, je suis très enrhumé en ce moment.
Et ma grand-mère, elle me conseille de faire des inhalations. Bon, je pense que ça ne doit pas être trop dangereux. Et surtout, je voulais savoir si ça a fonctionné ou pas. Merci beaucoup pour votre réponse. Bonne journée, au revoir.
Alors, Dimi, les inhalations. Bon, moi, j'avoue, j'en ai fait toute mon enfance. Ma mère me faisait ça quand on était malade. C'est les remèdes de grand-mère, hein, transmis de génération en génération contre le nez bouché. Vous en pensez quoi, déjà, vous, des inhalations?
Les inhalations, donc, ça consiste à prendre des huiles qu'on va inhaler en mettant dans un bol d'eau chaude.
Ouais, ou le péribor, petit... là, qu'on
Exactement.
Utilise.
Ça peut aider. L'eucalyptus, quand vous avez un rhume. L'amande poivrée, lorsque vous avez une sinusite. Attention, pas chez l'enfant de moins de 6 ans. Moins de 12 ans pour certaines huiles, jamais chez la femme enceinte. Il y a quelques précautions à prendre, mais ça peut aider parce que ça peut être décongestionnant, anti-inflammatoire et fluidifier les sécrétions. Donc c'est un traitement d'appoint du rhume.
D'accord. Et votre traitement, sinon, quand on a le nez bouché, il y a autre chose?
Chez les bébés et les enfants, on lave le nez au sérum physiologique. C'est ce qui préviendra l'otite ou la sinusite. À l'âge adulte, on peut mettre un peu de soufre parce que le soufre désinfecte les sinus.
D'accord.
Les décongestionnants peuvent être prescrits sur prescription médicale.
C'est des petites dans le nez.
Exactement,
c'est ça.
Les vasoconstricteurs, ils sont efficaces. Mais attention si vous avez des antécédents cardiaques ou neurologiques. Et puis il y a les décongestionnants, le Fervex, le Dolirum et tout ça. Prudence, si vous avez des antécédents, il peut y avoir des effets secondaires. Donc demandez conseil à votre pharmacien. Et sinon, lavez le nez avec du sérum. Sinon, Rhinohorn, alors j'ai pas d'action pour cette marque, c'est une poire de lavement ultra efficace. Regardez sur internet, vous allez voir, avec ça, pas de sinusite, pas d'otite. Très utilisé au Canada, très peu en France, et une poire de lavement qui est valable toute la vie.
Génial. Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour cette astuce. Alors, si vous aussi, comme Fabrice qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Dimi Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des cheveux blancs et du stress. Et puis, on accueillera aussi notre invité, le docteur Hugues Cartier, qui va nous détailler les nouvelles tendances 2020 en médecine esthétique, le plus grand congrès du secteur. Le congrès de l'IMCA s'ouvre ses portes demain à Paris. On va donc vous faire un point en avant-première sur toutes les dernières techniques. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le dermatologue Hugues Cartier qui va nous détailler les nouvelles tendances en matière d'esthétique, c'est le moment du bon conseil du docteur Dimi Mohamed. Alors aujourd'hui Dimi, vous nous parlez d'une expression qu'on connaît tous et qui serait vraie scientifiquement, se faire des cheveux blancs. Cela peut donc s'expliquer.
Eh oui, l'histoire ne manque pas d'exemples. Je vais vous citer l'histoire de Marie-Antoinette, qui, la veille de sa décapitation pendant la Révolution française, en une nuit s'est retrouvée avec les cheveux blancs.
C'est vrai qu'on
en
dit ça.
En une seule nuit. On a aussi le pilote d'avion John McCain, qui était pilote dans l'US Navy durant la guerre du Vietnam. Son avion s'est crashé dans le nord du Vietnam, il a été prisonnier. Et en une nuit aussi, il a perdu tous ses cheveux, la coloration. Et puis Barack Obama, si vous regardez avant, après son élection.
C'est vrai qu'il en a pris quelques-uns.
Il en a pris quelques-uns. Ouais. Donc finalement, il y a peut-être une histoire derrière tout ça.
Et donc, il y a une explication scientifique,
Exactement.
C'est ça?
Le stress, on sait qu'il agit sur notre organisme de façon délétère et qu'il pourrait en plus donner des cheveux blancs. Et les chercheurs se sont dit, tiens, est-ce que ce ne serait pas peut-être le système immunitaire qui est attaqué et qui sécrète moins de pigments? Donc on s'est amusé à inactiver le système immunitaire de souris. Les pauvres souris, elles n'avaient plus de défense, mais elles avaient encore pas des poils blancs, mais des poils qui devenaient gris. Donc on s'est dit, on n'est pas dans la bonne hypothèse. Enfin, on s'est dit, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc peut-être que trop de stress entraîne des cheveux blancs parce qu'on a trop de cortisol. Et bien, on enlevait les glandes surrénales qui produisent du cortisol à ces souris. Et résultat, elles ont encore du poil qui devient gris. Donc on s'est dit, c'est pas le stress lié au cortisol ni le système immunitaire, c'est peut-être une autre piste.
C'est chouette cette histoire. Alors, ils ont fini par trouver la réponse ou pas?
Exactement. En fait, on s'est dit on sait qu'on a un système nerveux sympathique qui est responsable de la réaction flight or fight.
C'est son nom, sympathique, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit sympa ou pas
exactement,
sympa.
C'est un système nerveux.
C'est un système nerveux.
Qui permet la réaction du combat ou de la fuite, le flight or flight. On sait que dans le follicule pileux, on a certaines cellules souches qui agissent comme réservoir de cellules qui produisent des pigments. Lorsque le cheveu se régénère, ces cellules souches se transforment en cellules qui produisent des pigments et qui vont colorer les cheveux. On s'est rendu compte que l'adrénaline produit par le nerf sympathique va activer de façon excessive ces cellules souches qui tout d'un coup vont toutes être relarguées d'un seul coup et vont toutes produire du pigment, ce qui veut donc dire qu'on va épuiser notre stock en une seule fois car ces cellules souches ne peuvent jamais se régénérer, d'où l'idée que si on est stressé, eh ben on peut avoir des cheveux blancs.
Je viens de comprendre, c'est tout le stock de piment relargué d'un coup.
De cellules souches qui se transforment en pigments, il n'y en a plus, un peu comme les follicules ovariens qui vont être épuisés au moment de la ménopause. Et ben là, le stress fait qu'on épuise notre capital lié à la sécrétion d'adrénaline qui est transmise sur ce follicule pileux.
Et puisqu'on parle de stress, on sait aussi que le stress il peut être délétère pour le cœur. On est d'accord, le syndrome du cœur brisé, ça existe.
Exactement, on appelle
ça
le Takotsubo, c'est le syndrome du cœur brisé. C'est une cardiomyopathie de stress découverte dans les années 90 au Japon. On sait que les chocs émotionnels, la perte d'un être cher, une rupture amoureuse associée à une fatigue intense peuvent entraîner ce syndrome. Et on sait que le stress est impliqué dans 30% des cas. Donc le stress délétère pour les cheveux et pour le cœur. La Fédération française de cardiologie rappelle que les personnes qui sont seules ou privées de relations sociales car elles sont un peu plus stressées sont deux fois plus sensibles de développer des pathologies cardiovasculaires que celles qui auraient des liens affectifs et chaleureux. Prenez soin de vous et prenez soin des autres.
Merci docteur Jimmy Mohamed de nous relaxer. Alors, tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour, le docteur Hugues Cartier, dermatologue et coordonnateur scientifique du congrès de l'IMCAS.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour docteur Cartier.
Bonjour.
Alors d'abord, on va parler un petit mot quand même de ce congrès de l'IMCAS qui va ouvrir ses portes demain. C'est le plus grand rendez-vous de l'esthétique mondiale et ça se passe à Paris, c'est ça ?
Oui, on a la chance de l'avoir créé. En tout cas, Benjamin Hacher l'a créé il y a une vingtaine d'années maintenant. Effectivement, on est très fiers de dire que c'est les Français qui ont pu créer le plus grand congrès, le plus grand rendez-vous de dermatologie et de chirurgie esthétique.
12 000 professionnels,
12 000 professionnels
100, plus de 100 pays
130
représentés.
Nations, ouais, c'est... 300 sessions, 900 plus de 900 orateurs. Donc c'est un grand rendez-vous pour le monde entier et c'est bien que ça se passe à Paris.
Et alors pour débattre, pour présenter tout ce qui est les innovations dont on va parler tout à l'heure, les innovations de demain en esthétique, d'abord juste pouvez-nous dire un mot peut-être de votre patientèle actuelle, c'est-à-dire que là on va parler des nouvelles tendances, mais les nouvelles tendances elles vont être pour qui ? Parce qu'elles ressemblent à quoi votre patientèle aujourd'hui ? C'est surtout des femmes toujours ?
Non bien sûr, il y a une mutation qui s'est opérée déjà maintenant depuis un peu plus d'une dizaine d'années. D'abord c'est les hommes aussi, ils sont concernés, pourquoi pas ? Au début... Bien sûr, c'était les personnes d'un âge certain, matures. Et puis maintenant, surtout, on voit apparaître une nouvelle population beaucoup plus jeune.
La génération Y, Z
et là,
même.
Bientôt Z. Ouais.
Oui, ils ont quel âge, ces gens-là ? Ils viennent à 18 ans, 20 ans déjà ?
18 ans, oui.
Mais c'est raisonnable ?
Ah, c'est une bonne question. La demande, parfois, elle peut venir parce qu'il y a un défaut caractéristique, une asymétrie, ou parfois, c'est vraiment une demande qui est esthétique et peut-être qui nécessite une correction peut-être surajoutée. Donc là, il faut prendre la balance entre le risque et le bénéfice.
Jimmy ?
Et c'est compliqué peut-être parce que les experts qu'on reçoit ici régulièrement nous disent que les gens veulent un résultat naturel et discret, mais néanmoins, on veut que ça se voit, on veut qu'il y ait eu quand même du changement. Comment faire pour équilibrer les choses ?
Je pense que c'est une discussion avec le patient et connaître ses limites, à la fois techniques, et puis bien entendu, surtout estimer le résultat qu'on peut obtenir dans le temps. Car c'est effectivement, on est dans l'immédiat aujourd'hui, et les patients veulent sortir en étant... fait, terminé. Et en fait, il faut imaginer que dans le temps, le pot, ça cicatrise, le mus, ça cicatrise, l'adipocyte, ça cicatrise. Tout ça sont des facteurs qui sont intégrés et qu'il peut y avoir des changements dans le temps aussi. Donc, il faut l'intégrer avec le patient, lui mettre toute une expérience de cause. Refaire un nez, par exemple, va avoir une durée très, très longue en termes de durabilité. Par contre, la toxine botulique, qui peut modifier des asymétries faciales, par exemple, mettra que quelques mois à revenir à la normale. Donc, il faut bien estimer ça avec le patient.
Merci, docteur Cartier. On n'en a évidemment pas terminé. Vous restez avec nous. Europe 1. Dans un instant, nous allons détailler les nouveautés du secteur esthétique avec notre invité. On parlera donc des nouveaux produits injectables, des nouveaux Botox et acides hyaluroniques qui vont débarquer sur le marché cette année. L'échographie cutanée et la réalité augmentée aussi se développent de plus en plus dans les cabinets, permettant d'affiner la bonne répartition des injections sur le visage des patients. On vous dira tout, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Hugues Cartier, dermatologue et coordonnateur scientifique du congrès de l'IMCAS. Alors, docteur Cartier, on va passer à présent aux nouveautés en médecine esthétique, un peu plus dans le détail quand même. D'abord, en matière de produits de comblement, il va y avoir du nouveau, des nouveaux Botox d'abord qui arrivent. Expliquez-nous ce qu'ils ont de plus que ce qu'on a déjà aujourd'hui, parce que le Botox, ça fait quand même 40 ans qu'on l'utilise, donc on connaît bien ce produit aujourd'hui.
Oui, mais on en apprend tous les jours finalement, même en dermatologie ou chirurgie esthétique ou médecine esthétique comme vous l'avez souligné. Effectivement, on est de plus en plus précis dans son acte, on a des produits de plus en plus précis qui vont fonctionner en tout cas plus rapidement peut-être que... Mais c'est quelques jours seulement, c'est pas rien d'extraordinaire.
Ça veut dire quoi plus rapidement ? Parce qu'aujourd'hui, quand on fait une injection, quand je sors, on voit pas la différence ?
La vraie mise en place, elle prend une petite semaine. Là, on va être autour de 3-4 jours, mais il est possible que dans les années qui viennent, elle pourra marcher en une journée.
Et ça, il y a vraiment une demande. On est si pressé que ça quand on fait des injections.
À l'immédiat, dans le monde aujourd'hui dans lequel on vit, c'est normal, oui, bien sûr. Alors après, il faut que ça dure. Donc aujourd'hui, elles tiennent 3-4 mois. Enfin, fonctionnellement, c'est le muscle qui refonctionne tout doucement. Donc parfois, dans certains cas, il peut prendre plus de temps pour se remettre véritablement en place. Mais alors que la déconnexion va durer que 3-4 mois.
Parce que rappelez-nous, le Botox, ça sert à quoi ? Par exemple, pour mes rides, ça va servir à quoi ?
C'est fait pour relaxer.
D'accord. Donc j'ai une ride là, au coin de l'œil. Là, vous pouvez faire quoi ? Vous m'injectez ou vous faites quoi ?
C'est le médicament du bien-être. On doit être relaxé. Le but, c'est pas de figer. C'est ça la grande science. Entre 20 ans d'expérience aujourd'hui, c'est qu'on en mettait beaucoup trop et qu'aujourd'hui, on essaie de réguler et qu'on connaît de mieux en mieux les balances musculaires.
Qu'est-ce que vous pouvez faire pour mes rides là ? Alors, du coup, vous mettez l'injection de Botox et ça ne va pas enlever la ride, ça va bloquer l'action du muscle, c'est
oui.
ça ?
Mais si vous arrêtez de faire l'étonner, ça va bien se passer, vous aurez
D'accord.
plus de rides.
Jimmy.
Et justement, ces nouveaux produits, ces nouveaux Botox qui vont forcément remplacer les anciens, on va peut-être être juste un peu plus précis et efficace et peut-être même élargir certaines indications.
Voilà, complémentaire. On peut presque se mettre peut-être à faire du futur, c'est-à-dire une qui va démarrer en un mois mais qui ne durera que 6 semaines, qui peut être utilisée en esthétique mais également pourquoi pas en chirurgie, avant un acte de chirurgie de reconstruction par exemple.
En et complément, puis, on ferait les
bien
deux,
sûr,
hein, c'est ça.
Une deuxième, c'est un peu comme la fusée à plusieurs étages, la deuxième qui va fonctionner pendant 3-4 mois et une dernière qui va durer un peu plus longtemps, 6-9 mois, donc on pourra peut-être les moduler ou peut-être simplement prendre la meilleure, celle qui est plus adaptée aux patients.
6-9 mois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de produits de Botox, en tout cas, qui tiennent aussi longtemps. Et
non.
ça arrive là, en 2020, vraiment,
non,
c'est des nouveaux produits.
Celles qui vont tenir plus longtemps, ce qu'on appelle les protéines recombinantes, là, il faut que ça dure peut-être dans 2-3 ans.
D'accord, mais ça va très vite. Ça fait partie des choses qui arrivent, en tout cas.
Très, très, très vite, oui.
Et c'est peut-être déjà utilisé ailleurs, pas en France, mais aux États-Unis ou en Asie, je ne sais pas.
Non, plus. Non, c'est vraiment le domaine de la recherche, mais les recherches démarrent, donc ça veut dire que 3-4 ans, mais c'est tout simplement extraordinaire. Et bien sûr, utilisable également en médecine. Pas uniquement en dermatologie ou chez esthétique.
Et ça s'injecte de la même manière, c'est le nouveau Botox, celui qui va arriver là, cette année, qui vient du marché asiatique, hein, c'est ça ?
Oui, c'est coréen et chinois, hein, essentiellement.
Voilà. Et vous les injectez de la même façon ? Pour vous, ça ne change rien, praticien, en tout cas ?
Peut-être que le jour où je vais avoir mon robot qui injectera tout seul, effectivement, j'aurai plus besoin de prendre ma petite main. On a aujourd'hui des petits stylets, des petits moteurs qui nous aident à injecter pour avoir une précision dans l'unité délivrée. Vous savez qu'aux États-Unis, ils payent à l'unité. Nous, on va dire que le consensus fait que c'est plutôt à la zone, mais effectivement, ça veut dire que la précision du produit est de plus en plus importante. Mais le robot nous aidera peut-être.
On parlera du robot juste après, Jimmy.
Dans l'acide hyaluronique, il y a apparemment aussi des nouveautés. Certains produits auraient une mémoire un peu comme une boule de chewing-gum.
Oui.
Ça va arriver prochainement et comment ça marche ?
C'est déjà sur le marché. Effectivement, aujourd'hui, on maîtrise de mieux en mieux la rhéologie, c'est-à-dire finalement la façon dont va se placer le produit, comment il va réagir finalement au muscle par rapport à la position, parce qu'effectivement, il est mis en compétition avec le muscle, la zone de la graisse, la zone de la peau. Donc, comment il se place ? Effectivement, on a des produits qui ont ce qu'on appelle la rhéologie, c'est-à-dire l'élasticité, la plasticité du produit. Et on a certains, finalement, qui vont reprendre presque leur place. C'est-à-dire une fois qu'on les a bien placés, eh bien, ils bougent avec le mouvement du visage, mais finalement, ils restent en place. Et ça reste un acide hyaluronique, c'est-à-dire qu'il est incorporé dans l'organisme. Il est quand même très bien toléré, puisque maintenant, depuis une trentaine d'années, on maîtrise quand même sa très haute tolérance, même si des allergies sont toujours possibles, ça reste exceptionnel. Et puis, bon, il faut savoir aussi qu'on peut toujours le faire détruire. On a une antidote aujourd'hui, l'hyaluronidase, qui est tout à fait disponible et qui peut permettre éventuellement de régler certaines corrections à faire.
Et ce nouvel acide hyaluronique chewing-gum, là, qui sert à modeler un petit peu au cas par cas, ça va être, j'imagine que tout ce qui est nouveau, c'est toujours plus cher. C'est pas le cas ?
Non.
Pour le patient, on va pas sentir la différence ?
Non, c'est ce que j'ai.
Ça coûte combien à peu près ?
Mais non, il y a une vingtaine d'années, on avait un ou deux produits, on était très contents et on ne proposait que ça. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir la petite ride, la plus grande ride, le pli nasogénien, la zone de la pommette pour la relever, la zone mandibulaire pour refaire l'ovale du visage.
Ce nouveau produit, il n'est pas plus cher ?
Non, il ne sera pas plus cher, simplement, pour nous, c'est un élargissement de la gamme et tous les laboratoires cherchent à avoir des gammes de plus en plus élargies pour leur plaire à tout patient et tout âge surtout.
Docteur Cartier, on s'arrête là pour le moment. Nous allons poursuivre cette discussion dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons passer à d'autres innovations dans le secteur esthétique, notamment ce robot. C'est une première mondiale qui sera présentée vendredi lors du congrès de l'IMCAS, un robot autonome capable de réaliser des injections pour combler vos rides tout seul avec une précision incroyable. On en parle juste après, restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Hugues Cartier, dermatologue et coordonnateur scientifique du congrès de l'IMCAS. Alors il y a quelques minutes, docteur Cartier, nous avons parlé des nouveaux produits de comblement qui arrivent sur le marché bientôt. Et justement, pour être plus précis dans vos injections, la technologie aussi se développe pour vous guider, l'imagerie, c'est-à-dire pour faire de la médecine sur mesure en fait. Hein. Et je sais que par exemple, vous utilisez, je crois, l'échographie cutanée en cabinet. Ça sert à quoi ? Ça sert à vous guider, c'est ça ?
Exactement, oui. D'abord, la première chose, c'est effectivement l'imagerie médicale. Prendre des photos, ça paraît banal, mais maintenant, aujourd'hui, on a des photos en mouvement. C'est ça qui est très intéressant. Avant, on était en statique. Maintenant, on a compris, et c'est grâce à la toxine botulique, qu'il fallait également réfléchir en mouvement parce que le produit se place. Il peut être mobile avec le muscle, avec la musculature. Donc, tout ça, c'est intéressant. Et pour le placer, il faut le placer à la fois parfois en superficiel, mais pas également en profondeur. Et là, éventuellement, l'échographie peut nous aider à repérer finalement le bon endroit sur l'os pour venir poser le produit, estimer éventuellement son volume à déposer et puis éventuellement avoir un effet comparatif par rapport à ce qui s'est passé quelques mois avant pour comparer comment le produit reste en place, s'il ne migre pas. Ça, c'est aussi très intéressant. Donc voilà, l'échographie, ça nous assure une certaine sécurité, une geste, c'est le plus, c'est pas indispensable, évidemment.
Vous le faites, vous passez une petite échographie faciale comme ça, oui, à vos patients.
Enfin, exactement, ça peut paraître surprendre, mais là, c'est vraiment les prémices, les débuts, mais là, on commence à voir les laboratoires qui commencent à s'y intéresser. Effectivement, ça surprend un peu nos collègues radiologues qui n'ont pas trop l'habitude de nous voir utiliser des appareils, mais comme un chirurgien pour aller regarder un post-opératoire, un hématome, un kyste,
etc. Il n'y a pas de risque,
etc.,
avec l'échographie
d'être... Aucun risque, ouais, c'est ça. Mais ça permet de nous assurer, ça permet pas 100% de sécurité, mais ça permet d'augmenter la réalité de ce qu'on voit pas sous la peau.
Jimmy.
C'est-à-dire que vous voyez quoi? Les grains de beauté, l'épaisseur de la peau, alors, des défauts, qu'est-ce que ça vous apporte de plus que le toucher ou l'œil du...
Alors, dans l'échographie cutanée, si on parle dermatologie et radiologie, ce qui est important aussi, c'est de savoir la fréquence. Effectivement, en fonction de la fréquence, on va aller plus ou moins en profondeur. Nous, on a besoin de sondes qui permettent d'aller à 1 ou 2 cm de profondeur. On n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin pour aller voir, finalement, le contact avec l'os, repérer des artères au niveau facial. Par contre, si on veut aller repérer des kystes, mais même calculer l'épaisseur de certains cancers, on a maintenant des échographies de très haute fréquence qui permettent d'avoir 1 ou 2 mm.
Mais en esthétique, ce n'est pas ça que vous cherchez.
Donc là, ouais. Mais ça nous sert aussi, parce que l'IMCA, c'est aussi un congrès de dermatologie clinique. Donc ça, c'est important parce qu'on ne peut pas oublier la base si on a ça pour nous. Mais effectivement, nous, dans la pratique esthétique, une échographie standardisée avec ce qu'on appelle des sondes de 14 à 18 Hz permet de repérer à la fois le produit, l'aiguille qu'on va injecter, parce qu'on peut injecter, on peut s'aider, ce n'est pas toujours utile, mais ça peut s'aider.
Donc
on peut
plus efficace avec ça.
On peut se guider, exactement. C'est un éco-guidage.
Vous injectez tout en regardant sous échographie,
oui,
c'est ça?
Oui, mais ce n'est pas forcément pour toutes les zones. C'est franchement, bon, voilà, il ne faut pas
sur
en faire...
Sur une zone un peu sensible, vous savez qu'il y a peut-être une artère dessous,
voilà,
ou je ne sais quoi.
Voilà, pour, il faut repérer, il faut penser que c'est un outil qui va nous aider. Et ça ne doit pas forcément prendre des heures. On n'est pas là pour faire un diagnostic échographique d'un foetus, il faut être clair. Ça nous assure une petite sécurité. Ça valide finalement le diagnostic qu'on a fait, parce que même si on a une bonne proportion, on a une image de ce qu'on peut avoir, je pense que c'est l'imagerie qui peut nous aider dans ce cas-là.
Je crois que vous utilisez aussi de plus en plus la réalité augmentée, des masques de réalité virtuelle en cabinet. Ça aussi, c'est l'avenir un peu de l'esthétique. Ça va servir à quoi, ces masques?
Exactement, oui, effectivement, vous avez aujourd'hui beaucoup d'applications qu'on trouve, franchement, sur tous les sites internet, qui vous permettent d'avoir une fixation de votre imagerie et le mouvement, et de transformer ce qu'on appelle le morphing. Aujourd'hui, nous, on utilise ça depuis des années, mais il faut faire un petit bémol, c'est-à-dire que le but, ce n'est pas de faire du morphing pour changer la structure et promettre au patient un résultat. C'est
par exemple,
important.
Vous prenez une photo du docteur Jimmy Mohamed, son visage, et qu'est-ce que vous faites avec ce masque?
Je ne lui dis rien, il est parfait.
D'accord, ça, je me doute.
Non, mais là,
je me doute. Mais bon,
bonne nouvelle, il n'a pas les cheveux blancs, donc déjà, c'est très bien, on n'est pas obligé de changer la couleur de ses cheveux. Non, voilà, ce qu'il faut important, c'est de dire que cette imagerie va nous permettre d'avoir la reproductivité du geste. C'est-à-dire que l'imagerie.
La reproductibilité, c'est ça, c'est refaire deux fois la même chose.
Voilà, par exemple, la toxine, on marque les points. D'accord, la patiente revient 3, 4, 5, 6 mois après, elle va avoir de nouveau les points. Là, l'imagerie va permettre de fixer les points, va vous permettre de vous donner les points à injecter que vous avez fait et éventuellement de vous aider, parce que ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle va pouvoir estimer aussi la musculature faciale et de la même façon, voir découper. Elle, finalement, avec ces imageries médicales, on arrive à voir les couches, l'os, la graisse, les différents compartiments musculaires, etc. Et donc, ça va permettre de localiser encore mieux. Et surtout, quand vous allez revenir, si c'était bien, vous reproduisez le même geste.
Et si ce n'était pas bien, vous changez justement les points.
Exactement. Et l'imagerie médicale va permettre de vous aider à reproduire les mêmes gestes adéquats. Et donc, la précision fait que ça, et je suis très fier de dire qu'aujourd'hui, c'est un laboratoire français qui le fait. Je peux le citer, c'est Next Motion. Il n'y en a qu'un au monde. C'est français, c'est extraordinaire. C'est quand on voit ça, on a l'impression qu'on est dans le futur. Et c'est eux qui vont présenter le premier robot injectable.
Ah, on en parlera juste après de ça. Mais donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites des photos, même en mouvement, vous nous l'avez expliqué. Et donc, vous pouvez quand même donner une idée de l'avant-après. C'est-à-dire que vous lui dites, certes, vous repérez les os, tout ce qu'il faut faire, ça vous aide à vous guider. Mais ça peut vous aider aussi, ça peut aider le patient aussi à voir ce à quoi le résultat va ressembler.
Bien sûr, ça donne un élément comparatif. Et là,
vous pouvez promettre la photo, sur sur photo, ça ressemblera
non,
à ça.
Il ne faut jamais promettre, mais on cherche à répondre à la question au patient, est-ce que je veux m'embellir, je veux me transformer, voilà, je veux surcorriger. Donc là, c'est le gros problème, c'est la surcorrection qui est souvent inadéquate et il faut expliquer au patient que justement, ça ne sera pas beau ce qu'il souhaite faire, parce qu'une grosse bouche sur une petite tête, c'est pas beau. Enfin voilà, il faut estimer les proportions, il y a des proportions qui sont à respecter. Là, l'imagerie augmentée peut vous aider à faire ça et justement éviter de,
oui,
finalement, de peut-être aller dans le sens du patient alors que c'est nécessaire. Et vous savez que c'est très difficile.
Lui montrer que cette bouche si grosse, ça ne lui ira pas bien finalement.
Exactement.
C'est ça, hein, oui.
Mais voilà, et après, aller jusqu'à la limite de la médecine, enfin la médecine, c'est aussi de donner des bons conseils.
Bien
et
sûr.
Ça, c'est les freins qu'on doit aussi, ce que je dis, effectivement, la technologie nous aide, mais il faut savoir l'utiliser pour qu'elle nous freine aussi dans nos
aides. Bien sûr. Jimmy ?
Je sais que le journaliste qui travaille avec nous, Benjamin Lévesque, est fan des filtres. Sur toutes ces
Snapchat,
photos,
ouais,
voilà, exactement, sur les Snapchat, Instagram et autres sites, il adore mettre des filtres. Est-ce que c'est pas votre bête noire en cabinet, puisque les gens veulent ressembler finalement à quelque chose qui n'existe quasiment pas
avec
dans
des grands
vie.
Yeux de manga, où on peut
ouais,
se faire
des
filtres
plus, voilà, avec un teint, où on paraît 10 ans de moins en fait sur ces filtres quasiment.
Oui, mais bon, s'il est dans un état mental qui fait qu'il est bien comme ça, très bien. Mais nous, notre métier...
L'état mental à Benjamin Lévesque, lui, ça va.
C'est nous, notre métier, justement, c'est pas ça. C'est l'aide à la réalité augmentée, aide le médecin, mais c'est pas l'inverse. Donc, faut pas confondre. On cherche pas à transformer les patients. On cherche simplement...
Vous n'êtes pas gêné, en fait, par tout ça. Parce que moi, je trouve ça très perturbant. Mais ça perturbe pas votre... les demandes un peu surréalistes de gens qui tout d'un coup veulent des choses...
Mais justement, c'est intéressant parce que ça force l'explication et la discussion, c'est ce qui est le plus intéressant avec le patient. C'est lui dire pourquoi est-ce que c'est pas bien, voilà, ou est-ce que, pourquoi est-ce que c'est bien, à la limite, parce que ça peut être aussi intéressant. Et vous avez raison, monsieur ou madame. Mais là, effectivement, on cherche pas à transformer, nous, on cherche à améliorer le bien-être, le mieux-être, pas plus.
Alors, l'un des grands moments du congrès, ce sera aussi la présentation, une première mondiale d'un robot autonome qui fait lui-même les injections de Botox, par exemple. Alors là, on est dans le futur complètement, mais vous n'allez plus avoir de travail, si je comprends bien.
Pas du tout. Justement, on va réintroduire la vraie notion d'humanité entre, et le rapport humain entre un patient et un médecin. Mais effectivement, aujourd'hui, ça allait sourire parce que d'abord, qui a confiance aujourd'hui dans la décision d'un geste mécanique, déjà la réalité augmentée, l'intelligence artificielle qui prend une décision pour nous, aujourd'hui, ça suppose deux problèmes, c'est l'intégration des data, c'est-à-dire qu'il faut intégrer beaucoup, beaucoup de données pour que la machine puisse réfléchir d'elle-même, d'accord, et après la deuxième, qu'elle fasse le geste toute seule, non, elle sera forcément guidée par d'abord le médecin.
Ce robot, il est capable de faire quoi? Il ressemble à quoi d'ailleurs, ce robot?
Un bras armé. Vous savez que ça existe déjà pour faire des prises de sang avec un bras armé qui fait déjà exactement la même chose. Ça existe déjà en Israël, ça existe aux États-Unis. Donc c'est exactement
c'est
le même bras.
C'est un bras mécanique, mais d'une précision au bout duquel il y a des outils.
Il est précis à 0,1 mm.
Et plus
il est capable...
que vous, donc.
Bien sûr. Non, ça dépend des jours.
C'est ça.
Lui, il fatigue pas.
Mais du coup, ce robot, on est d'accord, parce que nous, quand on parle de robot, on a l'impression qu'on aura le chirurgien au restaurant ou en train de faire du golf. C'est ce que les gens se disent dans leur tête, le cliché, et qu'il sera très loin et que le robot fera tout seul. Non, oui, le robot n'est que le prolongement de la main du clinicien. Ou...
Vous avez déjà les robots en chirurgie où le chirurgien est
on
à côté dans
une
pièce. On fait une
émission d'ailleurs spéciale sur voilà, les robots en chirurgie demain.
Sera,
hein.
Il ne sera pas parti ni au golf, ni dans son cabinet à laisser travailler la machine toute seule. Non, je ne crois pas. Je pense que ça peut aider dans certains cas, mais aujourd'hui, ça apporte un petit peu de rêve. C'est aussi le lieu de l'IMCAS, d'apporter le futur. Est-ce que c'est bien? C'est aussi intéressant sur le plan sociologique et philosophique. Est-ce que c'est bien de laisser une machine? Mais c'est un avis technique. Après, je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder le marché. Est-ce que ça plaira? Ça plaira peut-être aux Coréens, ça déplaira peut-être aux Français. Je pense qu'il ne faut pas se freiner aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dans le cadre d'études. Vous savez que pour faire ce genre de choses, il faut faire des études cliniques. Et donc, ça, c'est en cours, hein, puisque là, ça, ils ont déjà commencé avec notamment Créteil, il y avait dans le service du professeur Méningo.
D'accord. Et donc, ça veut dire qu'il y a déjà des patients aujourd'hui qui se font injecter par des robots
non,
autonomes.
Non, au moment, on est sur des patients, on est sur des morceaux de caoutchouc.
Ah, des mannequins, d'accord. Des mannequins. C'est pas encore des vrais gens, d'accord. Il n'y a pas encore une
mais
vraie...
Mais ça viendra, c'est vraiment pas un problème. Le problème, c'est la légitimité, l'autorisation, la sécurité. Voilà, ça, c'est les préambules à tout geste.
On va parler un petit peu de notre corps, parce que là, on a quand même parlé essentiellement du visage et des nouveautés pour les comblements des rides, etc. Pour le corps, alors moi, je vous disais tout à l'heure, c'est une révolution. Vous me disiez en préparant, c'est pas une révolution, c'est déjà un peu vieux. Mais le froid, je crois que c'est quelque chose qui est très utilisé, ce qu'on appelle la cryolipolyse. C'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, permet d'éviter, par exemple, certaines liposuctions.
Non.
Non ?
En fait, non. Je pense que c'est un problème d'indication. C'est-à-dire que la liposuction reste le maître technique.
Pour enlever
les
culottes de cheval, par exemple.
De cheval pour redessiner des contours, ça c'est intéressant. La cryolipolyse, elle va s'adresser à des masses graisseuses qui sont quand même limitées en termes de volume. Des zones bien disposées. Ça peut être sous menton, ça peut être les poignées d'amour, ça peut être le ventre abdominal, la face interne des cuisses ou des genoux. Mais attention, il y a des réseaux vasculaires qui peuvent poser problème. Donc il faut bien peser le pour et le contre. Et aujourd'hui, je vous rappelle que l'HAS a mis en garde l'utilisation, peut-être pas interdite, mais attention. C'est normalement un geste, une indication médicale.
Expliquez-nous quand même comment ça fonctionne, ces techniques de cryolipolyse, par exemple, pour, je dis n'importe quoi, des poignées d'amour. Comment on fait? Ça se passe comment, une séance?
En fait, c'est la conjonction de deux choses, le froid et la compression. C'est-à-dire que le froid seul aura du mal à fonctionner. Il faut comprimer pour effectivement, qu'il y ait une baisse du retour vasculaire pour pas que ça continue à réchauffer la peau.
Donc sur des poignées d'amour, la machine, elle va faire quoi?
Voilà, c'est comme une espèce de gaufrier qui va serrer la peau et qui va l'aspirer en même temps pour la coincer pour pas qu'elle bouge.
Ça évidemment. Fait mal?
Ça peut faire mal éventuellement les 2-3 premières minutes, mais bon, après, c'est une question de dosage, puisqu'on monte peu à peu en aspiration. Et après, les séances durent entre 30 minutes et 50 minutes, ça dépend les zones. Et peu à peu, il va y avoir une cristallisation des lipides intra-adipocytaires.
Du gras, les lipides,
lipides de la graisse. Et donc, ils vont cristalliser et ils vont donc exploser les adipocytes qui vont se vider de leurs lipides, qui sont éliminés.
Les cellules de graisse, donc, ils vont exploser. Ouais.
Ils vont exploser et les lipides vont s'éliminer tout simplement par les selles biliaires, voie hépatique. Et après, l'effet caisse, c'est-à-dire
Quand on va aux toilettes, on élimine la graisse comme ça. D'accord.
Mais c'est progressif.
Mais pourtant, ça a l'air pas mal. Les résultats, ils sont, puisque finalement, c'est très peu invasif. Les gens, ils sont satisfaits avec ce genre de
technique. Si l'indication est bien posée, oui. On a des, surtout, ce qui a montré très intéressant, c'est qu'on a des effets durables dans le temps. C'est-à-dire qu'on a des photos, on a des études qui durent 5, 6, 7 ans après, à poids constant, évidemment, parce que c'est toujours pareil. Voilà. Un adipocyte peut grandir jusqu'à indéfiniment. Il peut pas, l'adipocyte ne peut pas se multiplier, mais, sauf si on, a des, on parle de cellules souches. Mais sinon, effectivement, il peut grandir une taille. Donc celui qui est mort, mais celui qui reste à côté peut continuer à grandir. Donc le régime est important, et le sport est important.
Donc ça, c'est la cryolipolyse, et on l'a vu, on entend aussi de la cryothérapie. On a vu dans des émissions à la télé, où on propose ça en médecine esthétique. Qu'est-ce que vous en pensez? Que ce serait bien pour brûler les graisses et pas forcément que réservé aux sportifs de haut niveau qu'il utilise pour la récupération musculaire?
J'avoue que les études manquent. Il n'y a pas d'études suffisamment claires pour pouvoir proposer ça dans cette indication-là. La cryolipolyse, ça fait l'objet d'études très sérieuses, au départ à Harvard, d'accord ? Et maintenant, aujourd'hui, c'est tout à fait légal avec des machines qui sont marquées CE médicales, bien sûr, ou FDA comme aux États-Unis, mais qui sont marquées pour leur utilisation dans des indications bien précises. Donc, il faut les respecter.
Mmh. Poney voilà. D'amour, double menton, et vous avez dit quoi d'autre?
Oui, abdominaine, face interne.
On perd combien de centimètres, par exemple, avec ça?
Ça dépend le volume. En fait, vous savez qu'on a le gaufrier de plus ou moins grande taille. Donc, on va dire que globalement, par rapport à la taille d'un
c'est
volume.
C'est joliment dit, en tout cas. Voilà. Taille, pour, c'est pour être,
voilà. Ça doit être toutes les
morphologies. En fait, c'est une alcôve. C'est une alcôve qui va aspirer. Voilà, pour être tout à fait clair.
Et on peut perdre jusqu'à.
À peu près un tiers de la. Globalement, un tiers de la, du volume de la pièce à main que
vous utilisez. Faire 3-4 cm alors de tour de.
Parce que là, si je prends un tiers de mes bourrelets, ça va prendre du temps.
Il y a du boulot, là.
Oui, mais la circonférence, c'est la circonférence totale. Or, donc, il faut estimer le volume. Pourquoi pas, en échographie, peut estimer le volume de graisse perdue.
D'accord. Et c'est, vous parliez donc de la cryolipolyse, mais il n'y a pas que ça. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, vous dites on attaque tous les étages de la maison.
Exactement.
Donc, il y a le froid, mais il y a aussi quoi, les lasers. Enfin, quand, on ne parle pas de chirurgie, on parle de médecine esthétique, là, de choses moins invasives. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
Voilà, vous avez la radiofréquence, vous avez les ultrasons focalisés qui peuvent, dans certains cas, également...
Sur le corps, hein, tout ça.
Sur le corps, pour améliorer, redessiner les contours. Vous avez également des produits injectables, aujourd'hui, qui reviennent sur le devant de la scène. Alors, ils ne sont pas encore vraiment autorisés en France, mais dans d'autres pays européens, on peut arriver à faire fondre la graisse, par exemple, sous mentonnière. Il y a une autorisation pour un produit en particulier qui existait déjà depuis très longtemps, mais qui a été recadré dans le cadre d'études cliniques pour avoir le bon dosage. Donc voilà, des produits liquides, des produits physiques comme les lasers, la radiofréquence, les ultrasons focalisés et le froid. Et puis, bien sûr, le dernier né, c'est celui qui stimule la musculature, ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques à très haute fréquence, qui permet de contracter de façon très rapide le muscle.
Ça vous intéresse,
et
Jimmy,
ça
évite de
faire
du sport.
Permet d'avoir à la fois des tablettes de chocolat et en même temps d'aider à la fonte graisseuse. Voilà.
Merci beaucoup, docteur Cartier, d'être venu sur notre plateau nous faire découvrir donc les tendances en médecine esthétique pour 2020 en avant-première, le congrès du secteur. Le congrès de l'IMCA s'ouvre ses portes demain. Merci encore d'être venu nous parler de tout ça.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique, les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on va vous parler des maladies rares, parce que même si on les appelle rares, en réalité, des millions de patients vivent quotidiennement avec. Heureusement, des chercheurs s'activent partout à travers le monde pour trouver des solutions pour eux. Des solutions qui n'intéressent pas toujours les laboratoires pharmaceutiques conventionnels. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on parle de quelque chose qui vous semble sûrement rarissime, puisque son nom l'indique, on s'est intéressé aux maladies rares. Justement, savez-vous ce que cela veut dire? Combien de personnes concernées vraiment par une maladie rare en France ou dans le monde d'ailleurs? Est-ce toujours génétique? Pourquoi Benjamin Lévesque a été vous donner la parole sur le sujet? On écoute son micro-trottoir.
Pour moi, une maladie rare, ça touche 10 000 personnes.
Il y a des maladies rares en fait, qui sont sur une personne sur 100 000 ou autre. Donc c'est vraiment un gène particulier, je pense, qui est dans le corps d'une personne et qui contracte ça.
La maladie de Grégory Lemarchal, par exemple, mucoviscidose.
La maladie de Charcot, par exemple, je pense que ça touche assez... Ça doit être moins de 0,1% ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas s'il y a une délimitation officielle de maladies rares.
Quand on parle des maladies rares, on parle des maladies orphelines. Donc ce sont en général des maladies génétiques qui sont très peu identifiées parce qu'en fait finalement la recherche tous les efforts sont canalisés sur ce qui est le plus répandu.
Je pense que le cancer reçoit plus de financement pour la recherche contre le cancer que des maladies rares.
C'est pas très rentable, hein. C'est moche, mais t'es pas rentable quand t'as une maladie orpheline.
C'est pour ça qu'il existe toutes les émissions comme le Téléthon ou autre, du coup, pour pouvoir récolter de l'argent pour la recherche ensuite de ces maladies rares.
Alors, maladie rare, Jimmy, dites-nous-en un petit peu plus. Est-ce que c'est fréquent déjà?
Bah, maladie rare, non, donc c'est pas fréquent en tant que tel. Mais c'est vrai qu'il y a une petite subtilité, vous avez raison. C'est moins d'une personne sur 2000 et on parle de maladie rare. La seule chose, c'est qu'on estime qu'il y a au moins 6000 maladies rares qui sont identifiées à ce jour. Mais en réalité, il y en aurait peut-être beaucoup plus, vu que comme elles sont peu fréquentes, elles peuvent être inconnues. Si on regarde les personnes touchées, si on fait la somme de toutes ces personnes touchées par les maladies rares, on arrive à quasiment 30 millions de personnes seulement en Europe. Et donc finalement, lorsque les maladies rares sont fréquentes par la population, bah finalement ça touche beaucoup de monde.
Et le gros problème pour les malades, c'est que les maladies rares, qui dit maladie rare, dit parfois parcours du combattant pour avoir un diagnostic. Hein.
D'autant plus qu'elles peuvent affecter divers organes, ça peut être le muscle, le squelette, ça peut être le système nerveux, elles sont dans 80% des cas génétiques. Et donc parfois on a une errance thérapeutique, une errance diagnostique, on va d'un spécialiste à un autre, on met 1, 2, 3, parfois 10 ans avant d'avoir un diagnostic. Et pour répondre à ce problème, le ministère de la Santé, dans le cadre du premier plan de maladies rares, a mis en place des centres de référence experts de maladies rares. Ça permet d'avoir différents acteurs qui sont impliqués dans le diagnostic d'une maladie, neurologue, généticien, rééducateur. Il y en a plus de 700 en France et vous avez la liste de tous ces centres sur le site orphanet.fr. .fr ou .net.
Alors heureusement aujourd'hui il y a des miracles et des avancées dans certaines de ces maladies. La recherche est de plus en plus active et pour vous donner un exemple concret de ces prouesses médicales, on a interrogé une spécialiste, c'est le professeur Hélène Dolfus, chef du service génétique médical au CHU de Strasbourg, qui nous raconte le cas de l'un de ses petits patients, 11 ans, sauvé grâce aux avancées de la thérapie génique.
Un exemple très précis d'un enfant qu'on a vu avec une forme très précoce de dystrophie rétinienne liée à une mutation dans un gène très spécifique. Actuellement, pour ce gène très spécifique, il existe une thérapie génique qui est accessible et qui est sur le marché en France et bientôt dans différents pays en Europe et qui permet, grâce à une injection sous-rétinienne de ce médicament qui comporte donc un virus qui n'est pas actif mais qui porte le gène défaillant, en fait, de maintenir la vision, voire même de l'améliorer. Ce que je peux dire, c'est que je pense que les enfants et les parents ont noté quand même une amélioration notable de la fonction visuelle. Et ce que l'on a pu constater chez l'enfant, en tout cas qu'on a traité à Strasbourg, c'est que au niveau du champ visuel de sa mobilité, il avait vraiment gagné un bénéfice, notamment pouvant mieux se déplacer en ambiance obscure, n'étant plus obligé d'utiliser sa canne blanche, pouvant faire en fait des tâches qu'il n'était plus capable de faire avant.
Voilà, et rappelons donc que les maladies rares, elles ont aussi leur journée mondiale. Ça se déroulera lors d'une journée, elle aussi, peu fréquente. Ça se tiendra le 29 février prochain. Toutes les informations sur journeemaladiesraresaupluriel.org. Europe 1. Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, il sera question de sexe anal. Elle répondra à la question d'un homme hétérosexuel qui s'interroge, mais surtout qui craint que sa compagne pense qu'il est homosexuel. Restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints dans ce studio par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, je suis ravie de vous retrouver.
Et nous aussi, comme tous les jours, Catherine, à la fin de cette émission, on a plaisir de vous retrouver chaque jour. Alors, on a une question aujourd'hui de Valentin, je vous la lis. Ma copine et moi sommes très libérés dans notre sexualité, seulement depuis quelques temps, je ressens le désir d'être pénétrée par ses doigts. Je n'ose pas en parler avec ma chérie, j'ai peur qu'elle pense que je suis homosexuelle. Alors Catherine, c'est encore tabou les hommes qui désirent être pénétrés comme ça
Ah oui, bien sûr que c'est tabou parce que la sexualité garde ses tabous. Heureusement, les tabous ont du sens dans la sexualité. Si tout était simple, facile, qu'on pouvait en parler comme ça...
Vous n'auriez plus de travail.
Non, si c'est même pas cette question, c'est qu'il n'y aurait plus d'érotisme. L'érotisme, il y a aussi quand nous levons le voile de nos pudeurs, et on a besoin de pudeur. La pudeur est nécessaire dans la sexualité. Si elle est trop importante, eh bien ça fait une rigidité et une anxiété importante de part, et donc d'autre part, puisqu'on a peur de brusquer l'autre. Mm-hmm. Si par contre il n'y en a pas, c'est presque vulgariser la sexualité, c'est lui enlever son importance, lui enlever justement ce qu'elle raconte de transgressif potentiellement et qui fait toute notre excitation.
Et c'est fréquent les hommes qui souhaitent qu'on les pénètre, enfin qu'on mette des doigts ou je sais quoi.
Ben, en tout cas, ils s'expriment peu, hein, mais le fait est que dans la sexualité, certains le vivent. Dans mon cabinet, par exemple, ils n'en parlent pas.
Ah oui,
ça ne veut pas dire qu'ils ne le vivent pas. Qu'ils n'en ont pas le souhait.
En tout cas, c'est pas recensé. On ne sait pas trop s'ils sont nombreux ou pas à souhaiter ce genre de
choses. Voilà. Et puis, je pense que quand ils le vivent, ils ne veulent même pas pas souvent de commentaires et de sous-titrage. Ça se vit, ça se tait. Ça se rougit peut-être dans le noir et ça participe justement de l'excitation.
Jimmy.
Et quelle est la sensation recherchée ? Est-ce que c'est pour une stimulation de la prostate ? Est-ce qu'il y a quelque chose, enfin je ne sais pas.
Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement une histoire de stimulation évidemment excitante parce que évidemment que le rectum quand il est stimulé, ça provoque il y a une somme de terminaisons nerveuses donc évidemment qu'il est très réactif. Ceci étant, c'est aussi anxiogène parce qu'on a peur que ça provoque une envie de déféquer. Donc ça peut être angoissant pour certains. Hein. Mm-hmm. Donc bien évidemment, mais c'est surtout que c'est très excitant d'un point de vue excitant ou angoissant d'un point de vue fantasmatique parce qu'il y a l'idée que j'offre mon corps à l'autre qui le fouille, qui le cherche, alors que l'homme est plutôt habitué à le faire du côté féminin. Et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui s'arroge ce droit-là. Et donc, il y a une idée tout d'un coup presque ou enfantine ou justement flirter avec son féminin. Ça ne veut pas du tout dire que cet homme serait tout d'un coup homosexuel, etc. Mais nous avons toujours le goût d'aller fouiller un peu notre masculinité pour les femmes, féminité pour les hommes, sans pour autant que ça nous réduise, évidemment.
Jimmy, vous avez encore quelque chose à dire sur le sujet, j'ai l'impression.
Parce que pour stimuler la prostate, faut quand même, faut y aller, mais la prostate est un organe un peu loin, enfoui, quand même, donc il faut y aller. Donc est-ce qu'on peut
Il faut être expert parce que tout le monde
médecin,
ne sait pas.
Moi, je suis exactement
médecin,
où
la prostate, ça, il y a pas de problème, on peut la palper, mais c'est différent de titiller peut-être l'entrée. Ou est-ce qu'il y a différents jeux particuliers qu'on peut avoir ou
Écoutez, je vous laisse à votre imaginaire, Jimmy, évidemment. Et puis vous aussi, Mélanie, qui êtes couchée sous votre bureau là, en train de rire.
Oui, vous gloussez comme une adolescente.
Oui, c'est ça. Vous voyez, c'est bien de ça dont il s'agit. C'est que toutes ces pratiques qui finalement sont assez amusantes, coquines, etc., mettent justement dans cette espèce
de... On est un peu
gênés.
C'est pas la question que j'ai préféré lire, j'avoue. Mais
c'est ça qui est intéressant dans la sexualité. C'est qu'il y a des moments où la gêne s'installe et où, du coup, chacun va s'appuyer sur l'autre qui lui fait faire une expérience. Et puis de cela, eh bien, se fait un grand silence et à la fois une union dans un truc commun que l'on sait l'un l'autre et qu'on ne redira peut-être pas, revivra peut-être pas, etc.
Bon, on va répondre quand même à Valentin de manière un tout petit peu précise. Comment il peut aborder le sujet avec sa copine ? Il dit qu'il a peur qu'elle le croie homosexuel. Comment il peut la rassurer sur son orientation ? Est-ce qu'il en a besoin d'ailleurs de la rassurer ?
De toute façon, c'est toujours difficile de dire à quelqu'un ce dont on a envie dans la sexualité. Parce que même si on énonce les choses, eh bien, déjà, le fait de l'avoir demandé en enlève une part de l'excitation. Donc, c'est toujours compliqué de dire... et puis, en plus, c'est mettre des mots qui sont très en décalage avec la réalité. C'est-à-dire qu'il a envie qu'elle la pénètre de ses doigts, mais dire ces mots-là... C'est presque
juste l'aider, la guider, quoi. C'est ça, c'est tout.
Exactement. Donc, c'est amener une main, qui osera pas, parce qu'il faut savoir aussi que cette même
elle a peut-être
cette
pas envie
femme,
de faire,
elle peut ne pas en avoir envie, ou elle peut avoir peur de ne pas avoir bien compris et de se fourvoyer elle-même et de se retrouver dans une situation bien délicate. Donc, c'est en fait deux pudeurs, la pudeur d'une femme qui aurait envie de se voir d'un point de vue un peu masculin dans sa pénétration. Et un homme qui a envie de jouer avec une part un peu féminine. Donc voilà, à chacun le moyen de se l'indiquer tout en délicatesse en tout cas.
J'allais dire, en délicatesse toujours. Et vos conseils sont toujours délicats. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, notre grand dossier du jour sera consacré aux robots. Oui, depuis quelques temps, ils ont fait leur entrée dans les blocs opératoires. Vous allez tout savoir sur ces nouvelles technologies qui assistent dorénavant les chirurgiens.